slogans anti-gouvernementaux des manifestants ont à nouveau résonné sur les campus universitaires de Téhéran.
Au moins 176 personnes ont péri dans la répression des manifestations depuis le 16 septembre.
Vie, liberté. Ces slogans résonnent dans les rues iraniennes.
L'Iran a pour la première fois exécuté un manifestant ayant pris part au soulèvement populaire qui secoue le pays depuis près de 3 mois.
Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvelle émission d'Amnesty International Aix-en-Provence sur l'actualité des droits humains en mars 2023. Mars, c'est pour tout le monde d'abord, je crois, la journée mondiale pour les droits des femmes, pour tous les défenseurs des droits humains. Et cette année, la situation des droits des femmes en Iran étant particulièrement préoccupante, avec des manifestations énormes qui se succèdent depuis plus de 6 mois avec une violente répression, nous conduisent à nous intéresser de plus près à la situation donc, des droits des femmes dans ce pays, que nous ne connaissons finalement pas si bien que ça. Le mois de mars, c'est aussi Nowruz, c'est le 20 mars, c'est aussi le jour de l'an. Alors, la situation des droits humains en Iran est extrêmement préoccupante depuis l'établissement de la République islamique en 1979. La quasi-totalité des droits humains sont violés, en particulier le droit à la vie. Après la Chine, l'Iran est le deuxième pays qui exécute le plus de condamnés à mort. Les discriminations contre les filles et les femmes sont innombrables. La liberté d'expression est perpétuellement bafouée, le droit de manifester est tout à fait contrôlé et est l'objet de répressions extrêmement violentes. Pour autant, les Iraniennes et les Iraniens protestent, manifestent depuis des années. Cette année, les manifestations de femmes contre le port obligatoire du hijab ont réuni aussi des hommes. La jeunesse est très mobilisée et les slogans se sont élargis. D'abord, contre le port obligatoire du hijab, qui avait été renforcé par une loi récente en été 2022. Mais cette fois, se sont rajoutés des hommes, se sont rajoutés des étudiants. Et après avoir fait connaître dans le monde entier leur formidable slogan « Femme, vie, liberté », maintenant, c'est contre ce régime, pour l'état de droit et pour la démocratie, que les Iraniennes et les Iraniens manifestent. Alors, 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes, parlons donc d'abord des droits des femmes dans ce pays. Si l'on s'en tient au rapport des différentes organisations de défense des droits humains, il y a un consensus total qui est encore complété par des rapports de l'ONU, qui ne peut pas être taxé d'être partisan, sur la situation des droits humains dans ce pays. Et le dernier rapport présenté en octobre 2022 est absolument accablant. En particulier, il va dénoncer les lois discriminatoires qui restent toujours en vigueur concernant le mariage, le divorce, la garde des enfants, la liberté des mouvements et de l'emploi. Solmaz, tu as vécu en Iran, tu as quitté l'Iran, tu habitais Téhéran. Peut-être que tu pourrais nous donner quelques informations quand un Français entend que la liberté de mouvement n'est pas respectée pour une femme iranienne. Qu'est-ce que ça veut dire ?
En Iran, en tant qu'une femme mariée, on a besoin de l'autorisation de mari pour pouvoir quitter le pays. Et ce qui pose des problèmes des fois, comme les athlètes iraniennes qui ont été privées de participer à certaines compétitions à cause de cette règle injuste. Après, il y a plein d'autres problèmes comme... En tant qu'une femme mariée, si jamais tu veux divorcer, tu n'as pas le droit de garder les enfants. Les enfants sont directement, automatiquement envoyés à leur père, sauf si tu peux justifier que le père, il est incapable de garder les enfants. Et ça, il y a des démarches vraiment très, très compliquées. Voilà, il y a plein de choses à dire. Après, je ne sais pas si...
Oui. Sur la question de l'emploi... Quelles sont les discriminations autour de l'emploi en Iran pour les femmes ? Moi, j'avais entendu qu'il y en avait autour de l'emploi public, que certains emplois publics leur étaient interdits, et qu'en fait, l'Iran était un des pays du monde dans lequel la proportion de femmes au travail était une des plus faibles.
Oui, c'est vrai qu'en fait, c'est marrant parce qu'à l'université, il y a le pourcentage des femmes, c'est plus haut que les hommes à l'université. Mais après, au milieu de travail, c'est vrai que les femmes, elles ont moins d'opportunités pour travailler.
Je lisais par exemple que dans des statistiques qui étaient parues en 2022, la République islamique d'Iran se classait au 144e rang sur 146 en termes de participation et de possibilités, participation au monde du travail et de possibilités économiques pour les femmes, les femmes ne représentant que 14% de la main-d'œuvre. Si on parle du mariage qu'on a évoqué tout à l'heure, parmi les points qui paraissent extrêmement préoccupants, c'est les mariages précoces et le fait que la législation en Iran autorise le mariage pour les filles à partir de 13 ans et pour les garçons à partir de 15 ans. Du point de vue du droit international, ça relève évidemment du mariage forcé, puisqu'on peut considérer qu'à 13 ans et 15 ans, surtout dans une société aussi patriarcale que l'Iran, ces enfants, puisque ce sont des enfants, n'ont pas vraiment le droit de s'opposer aux décisions de leurs parents. Et en plus, une décision du juge en accord avec le père peut encore abaisser pour les jeunes filles l'âge du mariage. C'est quelque chose de marginal ou c'est quelque chose de courant en Iran, ces mariages de jeunes gens?
En fait, moi, je ne peux pas dire que c'est quelque chose de courant parce que autour de moi, je ne connais personne qui s'est marié si jeune, mais je sais que ça existe et c'est tout à fait légal. Ça n'a pas toujours été comme ça avant la révolution islamique, avant l'invasion de notre pays par les mollahs. C'était pas du tout comme ça, mais là, ils ont autorisé les filles, les garçons, les filles de se marier très tôt. Et même, ils encouragent les enfants de se marier. J'ai vu des émissions où les mollahs, ils vont dans les écoles, parlent aux petites filles de mariage, leur encourager de se marier, tout ça. C'est des choses horribles. Normalement, on parle pas de ce genre de choses aux enfants, mais... ce qui se passe en ce moment en Iran et en plus de ça, en fait, c'est légal aussi pour un homme d'avoir 4 femmes en même temps. Et c'est même, on encourage même les gens de faire ça à la télé de régime islamique. On voit des fois des émissions avec il y a des hommes qui viennent parler de... leurs plusieurs femmes avec qui ils habitent dans la même maison, ils disent que tout va bien et tout ça, c'est tout ce qui se... C'est horrible, mais non, malheureusement, ça se passe comme ça.
Et pour aggraver encore la situation, une nouvelle loi sur la jeunesse et la famille a encore aggravé les conditions pour décider des avortements thérapeutiques, puisque ce ne sont plus les médecins qui sont maintenant habilités à prendre la décision, mais ce sont les juges. Et on peut leur faire confiance pour appliquer avec beaucoup de discernement. Les femmes iraniennes sont depuis peu obligées, à travers leur médecin, d'enregistrer leur grossesse, ce qui sera donc une façon pour les autorités de pouvoir suivre ces grossesses et s'assurer qu'il n'y a pas eu d'avortement. Le dernier point... si tant est que ça puisse être le dernier, c'est celui qui, effectivement, a été l'objet donc, de toutes ces manifestations, c'est ces lois réglementant donc, l'apparence vestimentaire des femmes, et en particulier donc, le port obligatoire du hijab. Les femmes iraniennes n'ont pas toujours porté le hijab. Sous le régime précédent du Shah, les femmes iraniennes n'avaient pas d'obligation de porter le voile. Si certaines le souhaitaient, elles le portaient, mais il n'y avait aucune obligation de le faire.
Oui, en fait, c'est une loi qui était prise par les États depuis 79, en fait. Les femmes, elles ont protesté contre le voile obligatoire, elles ont été réprimées. Et au départ, c'était obligatoire dans les endroits, en fonction publique, les endroits comme ça.
Dans les lieux publics.
Dans les lieux publics, pas dans la rue, je veux dire, mais voilà. Mais petit à petit, ça a devenu obligatoire partout. Et voilà. Et depuis, c'était obligatoire partout. Il y a des stricts codes vestimentaires dans les écoles, enfin au lycée. Enfin, moi, je me souviens, on mettait des pantalons amples, des manteaux amples, avec des cagoules, souvent de couleurs foncées, pour aller à l'école.
Et donc, cette scène de septembre 2022, où la jeune Mahsa Amini portait le voile, pas de façon tout à fait correcte aux yeux des gardiens de la Révolution, ou de la police des mœurs, la police des mœurs peut-être.
Oui.
Et qui donc a été arrêté, brutalisé dans les locaux de la police et est décédé quelques jours après. Donc des manifestations monstres ont eu lieu depuis, violemment réprimées. Plusieurs dizaines et centaines de morts maintenant, des blessés en quantité. Plus de 15 000 personnes ont été arrêtées, et de façon à essayer d'endiguer le mouvement, la République islamique a même maintenant décidé de condamner à mort un certain nombre de manifestants, des hommes pour le moment. 4 ont déjà été exécutés en décembre et en janvier. 14 et même peut-être plus sont dans les couloirs de la mort. D'ailleurs, Amnesty International et beaucoup d'autres associations se battent pour obtenir que l'exécution n'ait pas lieu et qu'ils soient graciés, puisqu'ils ont été évidemment victimes de procès tout à fait injustes, ils ont été victimes de torture. La torture est tout à fait courante dans les prisons iraniennes, et on n'a pas le droit de choisir son avocat. Les avocats sont d'ailleurs eux-mêmes harcelés, voire persécutés. Et quand on est inculpé d'un motif qui relève de la peine de mort, on n'a même pas le choix de son avocat, puisqu'il n'y a qu'un certain nombre d'avocats de confiance qui sont autorisés à vous défendre. Et ce sont des gens qui sont tout à fait favorables au régime et à la peine de mort, donc on a très peu de chances de s'en sortir. Alors, quand on entend ça, on se dit, mais ces Iraniennes, ces Iraniens qui vivent depuis 40 ans sous ce régime, c'est pas des gens comme nous, ils vivent pas comme nous. Ils sont un peu comme nous quand même.
Ils sont tout à fait comme vous en fait.
Ah, tu me rassures.
Oui. C'est vrai qu'en fait en Iran tout est interdit, presque. On n'a pas le droit de boire d'alcool, on n'a pas le droit de faire la fête, aller en boîte. D'ailleurs, ça n'existe pas des boîtes de nuit en Iran. On ne peut pas s'habiller comme on veut. Enfin, tout est interdit. Mais je pense que finalement, on ne peut pas empêcher les êtres humains de vivre. Et ce qu'on a, en fait, finalement, on a trouvé le moyen de vivre, entre guillemets, normal. Les jeunes en Iran, ils font tout ce que les gens font en Europe, mais en cachette. On fait la fête, on fait les soirées. Moi, je me souviens, quand j'étais en Iran, quand j'étais jeune, enfin plus jeune, on faisait les soirées... Enfin, chez nous, dans les appartements, on créait vraiment l'ambiance des boîtes de nuit avec la même lumière, même système de son, tout ça. Et je me souviens qu'on mettait, on prenait nos mini-jupes, on mettait les pantalons, on prenait nos mini-jupes, on allait en soirée, on se changeait là-bas. Et là-bas, enfin, à l'intérieur de l'appartement, enfin, c'était vraiment comme la boîte de nuit, c'était la soirée, quoi. Même si c'était vraiment risqué, à tout moment on aurait pu être arrêté, la police pouvait intervenir à chaque moment, nous embêter, enfin très souvent on payait de l'argent et ils partaient, mais des fois ils étaient vraiment plus pénibles que ça et on aurait pu être emmené à commissariat et là c'était une autre histoire. Mais c'est vrai qu'on faisait tout, mais avec un boule au ventre tout le temps. Et voilà, ben finalement, non, on est vraiment comme vous, on partage les mêmes valeurs avec les Européens. En fait, c'est pour ça que c'est juste ce que je voulais demander à tous ceux qui entendent cette émission, c'est de ne pas détourner le regard de notre combat. En fait, c'est un combat, les Iraniens, ils se battent pour la liberté, pour le droit de l'homme, le droit de la femme, le droit des minorités, les sociétés LGBT, pour la protection de l'environnement, pour la liberté tout court. Et c'est bénéfique pour le monde entier, parce que imaginez si l'Iran est un pays, si l'Iran devient libre, laïque et démocratique, en fait, l'Iran paisible signifie un Moyen-Orient paisible, signifie moins de soutien financier de terrorisme, moins de larmes envoyées à la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. Ça signifie moins de réfugiés en Europe. Finalement, c'est un monde beaucoup mieux.
plus apaisé, voilà. Plus respectueux des droits humains, mais aussi plus apaisé. Puisque, la situation intérieure de l'Iran et la politique extérieure de l'Iran accroît l'instabilité dans le monde entier.
C'est ça.
C'est ça que tu es en train de nous dire.
Voilà, c'est ça. Et ce que je demande vraiment aux Européens, c'est de rester avec nous, d'amplifier la voix des Iraniens, de réclamer, écrivez à vos dirigeants, réclamez-leur de reconnaître ce régime islamique comme organisation de terroristes, et continuer à nous soutenir parce que nous, on a besoin de vous.
Très bien. Merci Solmaz, je pense que nos auditeurs entendront ton appel. Donc vous savez que cet appel, il est relayé par un certain nombre d'organisations de défense des droits humains. Donc soutenez, participez à des manifestations quand elles ont lieu. Et par ailleurs, signez les pétitions, participez aux actions qui vont défendre aussi bien les droits des femmes qu'en ce moment tous les manifestants injustement condamnés à mort et qui pour certains d'entre eux risquent vraiment une exécution imminente. Et alors Solmaz, tu nous as parlé, quand on a préparé cette émission, d'une chanson dont j'avais vaguement entendu parler, mais que je n'avais jamais entendue et qui est extrêmement belle. C'est toi qui vas nous dire ce que c'est cette chanson. Vas-y.
En fait, c'est la musique de Shervin Hajipour, ce qui s'appelle Baraye, qui est devenue très très connue ces derniers temps, qui est devenue l'hymne de notre révolution. Il a écrit les paroles basées sur les tweets que les Iraniens ont partagés depuis le début du soulèvement révolutionnaire. Ils ont partagé les tweets en disant leur motivation pour renverser le régime, pour faire un changement, comme par exemple on fait ça pour l'avenir de nos enfants, pour l'environnement, pour la liberté, pour... la situation économique, tout ça. Et Shervin, il a écrit cette chanson basée sur ce tweet. Et du coup, ça a touché nos corps. Et ça a devenu notre hymne.
Voilà, cette chanson est reprise, y compris dans les manifestations.
C'est
ça. Très bien. Donc nous allons écouter, bien sûr, cette chanson. Un grand merci, Solmaz, pour ton témoignage si précieux qui nous aide à mieux comprendre la situation en Iran et, je crois, nous motive pour soutenir toutes ces Iraniennes et tous ces Iraniens qui ont manifestement bien besoin de nous pour permettre que s'améliore dans leur pays la situation des droits humains. Merci, Solmaz.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
توی کوچه رخصیدن برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خواهرامون برای تغییر مغزها که پوسیدن برای شرمندگی برای بیپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولیعصر و درختهای فرسوده برای پیروز و احتمال انقراضش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوقفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای آینده برای بهشت اجباری برای نخبه های زندانی برای کودکان پس از شبای طولانی، برای غرصای حساب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی. برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی.
Pour pouvoir dans les rues encore danser. Pour la peur qui nous glace d'avoir embrassé. Pour ma sœur, pour ta sœur, pour toutes nos sœurs, pour chambouler nos cerveaux prisonniers du passé.
Pour la honte de ne pas pouvoir ramener le pain. Pour l'envie de mener une vie normale tous les matins.
Pour cet enfant de la rue, ses rêves oubliés. Mais qu'est-ce qu'un rêve nous a-t-il demandé?
Pour cet argent qui me pousse encore que pour ceux d'en haut. Pour l'air pollué et qu'on respire toujours sans dire un mot. Pour Valias et ses arbres épuisés. Pour Pilous, le petit guépard en danger.
Pour ces chiens innocents à qui l'on interdit la vie. Pour les appels glaçants qui réveillent en pleine nuit. Pour ces larmes qui coulent encore sans retenue. Pour l'image du moment qui ne se répétera plus.
Pour le visage qui affiche son sourire enfin. Pour les écoliers, pour ce que deviendrait demain.
Pour échapper enfin au paradis forcé. Pour tous les génies qu'on a enfermés.
Pour les petits arcans qui courent dans les rues du pays. Pour ces millions de paraillés à l'infini. Pour tous ces slogans vides dans la bouche des enfants. Pour ces maisons fragiles tombées ou parties au vent.
Pour voir le soleil après de longues nuits. Pour ces calmants et pour ces milliers de nuits d'insomnie. Pour un instant de paix, de pure tranquillité. Pour l'homme, pour la patrie et la prospérité.
Pour les filles qui regrettent d'être ce qu'elles sont. Pour ne pas être nées dans le corps d'un garçon.
Pour la femme, pour la vie, la liberté.
Azadi, femme, vie, liberté.